France Info.
Et France Info Junior active aujourd'hui la machine à remonter le temps. Fait du bruit, hein. En partenariat avec Un Jour Une Actu et unjourunactu.com, et l'on remonte très très loin, 3 500 000 années, avec la découverte en Éthiopie d'un voisin de Lucie, la célèbre Australopithèque. Et cette découverte vient remettre en cause l'idée selon laquelle il n'y avait à l'époque qu'une seule espèce d'êtres humains. On voit cela avec vous, Yves Coppens, bonjour.
Bonjour.
Paléontologue, professeur honoraire au Collège de France, co-découvreur de Lucie en 1974. Merci d'être en ligne avec nous depuis New York où vous participez à une conférence aux Nations Unies sur la piste des Australopithèques, des grands CM1 de l'école Fourcroy dans le 17e arrondissement de Paris. Au micro d'Estelle Faure, on commence avec toi, Kylian.
Comment ils ont trouvé l'Australopithèque ?
Ils l'ont trouvé en cherchant, c'est-à-dire que dans cette région du monde... Le pays est très sec, il y a beaucoup d'érosion, il n'y a pas de végétation, et donc les fossiles apparaissent souvent à l'extérieur, c'est-à-dire que la recherche, au lieu d'être une fouille, est souvent une collecte, un ramassage.
Élise.
Pourquoi l'Australopithèque s'appelle l'Australopithèque ?
Ah, c'est parce que le premier qui a été découvert en Afrique du Sud par un monsieur qui était d'origine australienne. Alors il s'est un petit peu amusé en faisant un mot qui faisait à la fois austral comme l'Afrique australe et austral comme l'Australie. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé son fossile Australopithecus africanus, c'est-à-dire le singe du sud d'Afrique.
Vers quel âge il est mort, l'Australopithèque ?
Les Australopithèques meurent en général très tôt, parce qu'il n'y avait pas, évidemment, à ce moment-là, tous les soins que l'on a aujourd'hui. Moi, si j'étais Australopithèque, je serais mort depuis longtemps, tu vois. Alors, je suis encore un petit peu debout. Mais ces gens-là, parfois, étaient morts à 20 ans, quoi. À 20 ans, Lucie était certainement une vieille dame qui avait déjà eu beaucoup d'enfants et qui avait déjà peut-être quelques petits-enfants. En général, ces gens-là avaient des enfants à partir de 10 ans.
Kylian.
Est-ce que l'Australopithèque avait une petite copine ou une petite choupinette ou un petit doudou qu'il aimait bien ?
Un petit doudou, je ne sais pas. On a retrouvé des objets et on ne sait pas si ces objets sont des doudous. Mais comme à cette époque-là, il y avait d'autres bêtes... Peut-être qu'au lieu d'avoir un petit nounours, ils avaient un petit mammouth en plus. On peut en tout cas imaginer que les enfants étaient traités comme des enfants et que les parents, bien sûr, leur donnaient des petits objets pour s'amuser. Mais ça pouvait être des petits cailloux, ça pouvait être des petits coquillages.
Eden.
Était-il intelligent ? Était-il beau ou moche ?
Est-ce qu'on sait tout ça d'ailleurs ?
Oui, on sait tout ça, oui. Pour nous, ils apparaissent moches, mais pour les gens de leur groupe, ils étaient sûrement aussi beaux que sont les gens d'aujourd'hui pour nous. Quand on les regarde, nous, à distance, on est un peu impressionnés par leur allure, par le fait qu'ils ont une bouche qui avance, qu'ils ont une petite tête, qu'ils ont parfois un petit peu de poils, évidemment. Donc, ce ne sont pas les mêmes canons de beauté. Mais sûrement, aux yeux du petit Lucien, Lucie devait apparaître très belle. Et il en était sûrement amoureux, oui.
Élise.
Comment l'Australopithèque a-t-il évolué jusqu'à l'Homo sapiens et l'Homo sapiens jusqu'à nous ?
Pour nous, aujourd'hui, on a toujours la même allure qu'il y a 1000 ans, parce que le temps n'a pas beaucoup changé. En ce moment, le climat est en train de changer, mais... Comme nous avons inventé les vêtements, quand il fait plus froid, on s'habille, quand il fait plus chaud, on se déshabille. Donc on aura moins de transformations physiques qu'on avait à ce moment-là. Mais à ce moment-là, quand il faisait plus chaud, on devenait un petit peu différent. Et quand il y avait beaucoup d'arbres, on était encore autre chose. Quand il n'y avait plus d'arbres du tout, on était encore une autre forme d'être vivant.
C'est-à-dire qu'en fait, on a le choix, soit on transforme notre environnement, soit nous nous adaptons à notre environnement si on ne peut pas le transformer, en un mot.
C'est ça, on réussit ou on ne réussit pas.
Élise.
Est-ce que l'Australopithèque avait des os différents que nous ? Le crâne, oui, mais d'autres parties du corps ?
Oui, parce que la plupart des Australopithèques ont encore des aptitudes au grimper, c'est-à-dire qu'ils sont encore arboricoles. Quand ils voient un arbre, ils font comme les singes, ils peuvent grimper dedans de façon très très habile. Donc pour pouvoir grimper dans les arbres, ils ont des bras qui sont très longs, des jambes qui sont plus courtes.
Est-il peut-être herbivore, omnivore, carnivore ?
Eh oui, qu'est-ce qu'ils mangeaient ?
Non pas herbivore, mais végétarien. Ils devaient manger sûrement des petites pousses toutes jeunes, là, des arbres tout neufs du printemps. Et puis ils devaient manger sûrement des fruits dans les arbres. Ils devaient manger sûrement des racines quand ils étaient à terre. Donc c'est assez varié, mais finalement pas beaucoup de viande. Sauf lorsque un petit animal, un petit rongeur leur passait sous le nez. Alors évidemment, ils l'attrapaient et ils la croquaient aussi. Mais en général, ils aiment beaucoup plus les fruits ils en consommaient beaucoup.
Merci Yves Coppens d'avoir répondu de New York aux questions des petits journalistes de France Info Junior. On peut s'abonner au podcast de l'émission sur franceinfo.fr, sur l'appli France Info et sur les principaux stores.